On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et ce soir, on va parler un peu, beaucoup d'écologie, même dans On se dit tout, avec une question très très simple et des réponses qui sont souvent aussi simples. Quels sont les gestes que vous avez mis en place au quotidien pour faire un peu plus attention à la planète, pour moins consommer, pour arrêter peut-être de surconsommer dans votre façon de faire vos courses, dans votre façon de vous loger, de vous chauffer, de vous habiller. Pour certains, des maisons éco-responsables, pour d'autres, des poules, un composteur, pour d'autres encore, des cosmétiques faits maison, des couches lavables pour les bébés. Il y a évidemment encore plein d'exemples et le mieux c'est que vous veniez nous en parler directement ce soir. 0810 055 056, on se dit tout sur vous, éco-citoyens, consommateurs, comme vous voulez, en compagnie de la blogueuse Herbeline Verbeken, co-auteure avec Marie Lefebvre du livre J'arrête de surconsommer aux éditions Erol. Bonsoir Herbeline.
Bonsoir.
Vous nous lancez un défi en 3 semaines pour sauver la planète et notre compte en banque. Donc 3 semaines, ça suffit pour déjà faire attention et pour déjà changer de mauvaises habitudes?
Alors oui, le démarrage peut être assez rapide. Maintenant, on n'est bien évidemment pas obligé de le faire en 3 semaines. On peut aussi prendre son temps.
On peut le faire toute la vie aussi.
On peut le faire aussi toute la vie.
C'est une question d'éducation ou de rééducation?
Oui, plutôt de rééducation, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a très peu d'éducation à l'écologie et aussi à la consommation, à la gestion budgétaire, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est une forme de rééducation, oui, tout à fait.
Alors, on le disait un petit peu en rigolant avec Arnold tout à l'heure, ça fait du bien au portefeuille quand on fait attention à sa consommation et quand on arrête de surconsommer.
Ah oui, les effets sont très réels.
Alors, ce qui est génial dans votre livre, c'est que vous nous donnez des petits bons, on peut les photocopier, on peut les coller dans le livre, où on fait un geste pour la planète, on fait un geste et on le visualise très vite.
C'était effectivement l'objectif, oui, de visualiser un petit peu les progrès à la manière positive, bien sûr. Il n'est pas question d'enlever des points quand on fait des choses pas bien.
Ça arrive.
Oui, ça arrive. En plus, il faut se donner le droit à l'erreur.
Ah, mais on va parler de tout ça ce soir avec vous qui avez déjà changé des choses dans votre façon de consommer, tout simplement. On va parler des circuits courts, on va parler de cosmétiques faits maison, on va parler de tout ce qui peut changer. On arrête d'acheter avec des emballages, on achète en vrac. Je suis sûre que ça vous parle, tout ça. Le mieux, c'est que vous veniez nous en parler directement. C'est le but d'On se dit tout, hein. L'émission l'a fait grâce à vous. C'est maintenant qu'il faut nous appeler, on est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous faites attention à ce que vous mangez, à comment vous achetez, à comment vous vous chauffez, vous vous lavez. Vous avez peut-être considérablement changé vos façons de faire depuis des années. On se dit tout ce soir sur les gestes éco-responsables que vous avez mis en place, les engagements peut-être plus larges sur lesquels vous militez. Moins de déchets, plus de naturel, plus de circuits courts. Et si le bonheur était en dehors de la consommation, et si c'était ça d'ailleurs la solution. 0810 055 056, ça c'est le numéro d'On se dit tout jusqu'à 22h. Et on va essayer de se faire du bien et faire du bien à la planète en compagnie de notre grand témoin, co-auteur du livre J'arrête de surconsommer aux éditions Erol, c'est Herbeline Verbeken. Et nous sommes maintenant avec Anissé dans Dordogne. Bonsoir Anissé.
Bonsoir Vanessa.
Ça va bien Anissé?
Oui, alors moi je pense être dans le, comment dire, être écolo comme on dit, parce que depuis, j'ai passé quand même 36 ans à Jean Parisienne. Je suis à l'origine, je suis fils d'agriculteur, donc je sais ce que c'est la nature autrefois de mes parents, il y a bien longtemps évidemment. Et bon, mais je suis revenu en Dordogne, passé ma retraite, et j'ai un grand jardin 300 mètres carrés que j'ai créé de mes mains pratiquement, et je cultive bio. Dans la mesure du possible, même pratiquement. J'emploie aucun engrais chimique. Sinon, ceux qui sont biologiques, dans la mesure du possible, j'en utilise pas. Alors, donc, j'ai des tomates bio, j'ai pas mal des haricots, des fèves, des comme ça, des courgettes, etc.
300 mètres carrés, il y a de la place, là, à Nice, hein?
Oui, pas mal. J'ai 2 pommiers que je ne traite pratiquement pas. Voilà. Et tout est comme ça, quoi. Tout ce que je peux recycler. J'ai 4 composteurs. De 600 litres, ça fait 2400 litres pour faire du compost, voilà, et j'utilise de la paille pour pouvoir le garnir, parce que bon, le problème d'agir comme ça, c'est que des fois ce qu'on achète, on ne sait pas si c'est vraiment bio non plus. La paille que j'achète, est-ce qu'elle est bio au départ? Voilà, on est un peu coincé dans cette manière. Mais pour manger, c'est pareil, je fais attention, je ne me sers plus maintenant au supermarché pour les viandes, j'ai un boucher dans le village, et je pense que bon, dans l'ensemble, c'est pas plus cher, et puis bon, on sait à peu près ce qu'on mange, voilà.
C'est vrai que, Herbeline, on n'est pas obligé de faire une fixette sur le bio, déjà, manger local, privilégier les circuits courts, c'est déjà beaucoup.
Alors,
Oui et non.
Oui et non, parce que en fait, à condition, je dirais oui, à condition de savoir quel est le producteur chez qui on achète. Parce que local ou pas, si le champ il est blindé de pesticides, on mange des pesticides, ouais. Donc c'est toujours.
Oui,
ça,
mais du bio de Nouvelle-Zélande, c'est pas mieux non plus.
Non, mais on n'est pas obligé de choisir entre le bio de Nouvelle-Zélande ou le non bio français. En fait, non. Ouais. La question, c'est d'accepter surtout de manger de saison, parce que en général, effectivement, si on veut une banane, on va être obligé de prendre du bio qui vient de loin. Mais si on accepte de manger des pommes, voilà, on trouvera certainement des pommes du coin, par contre.
Des pommes en Dordogne, chez Anissé, par exemple.
Par exemple.
Ah non, j'en ai pas assez, c'est dommage.
Bah, y en a suffisamment pour vous, c'est déjà bien.
La Bosco, bon, mais des fois, des années, ça donne pas, etc. Mais par exemple, j'ai changé d'attitude, par exemple, pour faire, je fais pas mal de sous, comme en Périgord, et je n'achète plus de ces cubes chimiques. J'achète de la viande chez le boucher, genre pot-au-feu ou des os, ou alors des morceaux de poulet. Je fais mon bouillon comme ça de volaille ou de bœuf. Comme ça, je suis à peu près sûr que bon, je mange au moins une produit chimique. Les personnes, c'est pas un reproche fait aux gens. Il faudrait qu'ils regardent les compositions derrière ce qu'ils achètent au supermarché. Ils vont être effrayés. Ah oui, ça.
Quand on arrête de surconsommer ou quand on fait attention à ce que l'on consomme, on devient plus curieux aussi, plus attentif, Herveline.
Oui, plus attentif, ouais, tout à fait. C'est vrai que quand c'est comme une pelote qui se tire toute seule, c'est-à-dire que quand on a commencé à regarder ce genre de choses, et du coup, après, on déterre pas mal de choses. Ouais.
Alors vous nous conseillez dans le livre d'anticiper sur les courses, de prévoir, de faire les menus à l'avance, ça permet de moins consommer aussi.
Oui, ça permet de moins consommer, ça permet de réduire énormément le budget alimentaire. Moi, c'est comme ça que j'ai fait il y a quelques années, là, quand j'ai eu des soucis financiers. Et en fait, effectivement, planifier à partir de ce qu'on a déjà dans les placards, ça permet de réduire. Moi, j'ai divisé par deux mon budget course.
Ah oui, quand même. Mais c'est vrai qu'on a toujours plein de trucs, congélateur, placard. Il faut commencer par ça.
Oui. En général, on conseille de commencer par ça, effectivement. Et puis après, il y a un roulement qui se met en place parce qu'on commence à acheter uniquement que le besoin, en fait. C'est surtout ça.
Il n'y a pas d'achat compulsif. D'ailleurs, on peut faire un petit test au début de votre livre, savoir quel consommateur on est. Et c'est très intéressant de savoir où on se situe un petit peu entre ceux qui font attention, ceux qui font des achats parfois un peu compulsifs aussi.
Oui, c'est vrai. Bon, on a voulu. Alors, il a aucune prétention scientifique. Hein, petit test, c'est vraiment pour se situer comme ça et puis pour pouvoir permettre d'introduire des notions en fait.
Mais effectivement, c'est fait avec beaucoup d'humour.
Oui, voilà. C'est vraiment pas à prendre au sérieux. C'est juste vraiment une accroche pour pour aborder des thèmes.
Anissé, est-ce que vous avez des enfants?
Oui, ils sont grands, mes enfants.
Mais est-ce que vous avez réussi à leur transmettre ce goût de faire attention?
Oui. J'ai même mon fils qui est autiste, bon, ça c'est autre chose. Et le temps qu'il était là, et je lui ai appris un peu certaines choses. Maintenant, du fait de son problème, je ne suis pas certain. Non, mais ma fille, si, ma fille suit un peu, elle travaille dans un supermarché, et dans la mesure du possible, elle essaie de choisir ses aliments qui sont à peu près corrects.
Ouais. Ouais. Mais comme quoi, c'est toute une éducation aussi, les bons gestes que l'on fait, les enfants, a priori, les enfants s'en souviennent et peuvent perpétuer un petit peu ces gestes-là et faire attention encore aussi après. Anissé, merci beaucoup d'être venue témoigner sur France Bleu, on vous embrasse très fort.
En espérant que les consommateurs regardent ce qu'il y a sur le dos des produits qu'ils achètent et ils vont changer d'attitude, je peux vous le dire.
Ah bon, on va parler de tout ça, justement. Consommer différemment, c'est le sujet dont se dit tout. Alors venez nous dire si vous faites un peu plus attention, si vous avez fui par exemple les grandes surfaces parce que vous aviez du mal à trouver des produits, on va dire, un peu éthiques. Hein, même quand c'est écrit bio ou éthique, il faut regarder un petit peu d'où ça vient. Vous consommez différemment les produits courts, les produits bio, vous avez prévu de faire un jardin chez vous comme Anissé pour faire directement votre production. Et puis on peut parler de cosmétiques, de façon de s'habiller, on peut parler de chauffage, on peut parler de maison en bois, maison écolo. On parle de tout vraiment à partir du moment où on se dit ça fait du bien pour nous et ça fait du bien à la planète aussi. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les gestes éco-citoyens se font à la maison, au travail, à l'école, en faisant ses courses ou son marché, dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances aussi. Quelques exemples, éteindre les lumières, économiser l'eau, utiliser des transports propres, trier ses déchets, consommer de façon responsable, il y a plein de possibilités. Certains d'entre vous vont même encore plus loin dans le militantisme écologique, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais quel que soit votre profil, votre degré d'engagement, on a besoin de vous ce soir pour faire avancer un petit peu les choses. Vous qui consommez différemment, qui avez changé vos habitudes, qui avez même peut-être carrément changé d'état d'esprit, ça va souvent avec. 0810 055 056, on compte sur vous jusqu'à 22h avec Herveline Verbeken qui est notre grand témoin, co-auteur du livre « J'arrête de surconsommer » aux éditions Erol. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui se disent « bah c'est quand même pas bien nouveau tout ce qu'elle nous raconte, là, faire attention à l'eau, au chauffage, on faisait ça avant ». On a parlé d'un moment d'une génération, on a sauté une génération. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi, à un moment donné, on a sauté sur tout ce qui était industriel, on a sauté sur tout ce qui nous facilitait la vie, sans faire attention à ce qu'il y avait vraiment dedans?
Ben, moi, je pense que, enfin, il y a beaucoup de raisons, je pense. Mais je pense que la question de l'émancipation de la femme a quand même beaucoup joué. C'est-à-dire qu'à un moment, les femmes ont voulu travailler, ont souhaité travailler, ont pu travailler. Mais, les hommes ont pas forcément suivi dans le partage des tâches, en tout cas pas tout de suite. Et du coup, l'industrie, c'était un boulevard pour l'industrie, en fait, pour proposer des choses toutes prêtes qui puissent permettre à la fois d'assurer le quotidien et d'assurer le travail.
On va accueillir Vincent qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
On va parler de permaculture avec vous.
Oui.
Et vous vous promenez de ferme en ferme comme ça pour expliquer, pour apprendre surtout la permaculture?
Et en fait, moi je sors de 3 ans de traitement d'un lymphome qui est un cancer du sang dû aux pesticides. J'ai plus le droit de travailler et j'ai choisi en fait de voyager donc avec mon vélo électrique et sur ma, avec une roue arrière avec un panneau solaire. Et je pars sur le principe du woofing. C'est mon travail contre le gîte et le couvert. Et donc je vais de ferme en ferme pour apprendre les méthodes de permaculture et essayer de les transmettre.
C'est bien ça et ça marche? Vous êtes content?
Ça fonctionne très très bien. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de personnes qui sont réactives et qui sont sensibles au message justement de passer outre cette agriculture intensive des années 50 et cette hyper-procréation des supermarchés.
Vous avez parlé de pesticides, Vincent, un cancer lié aux pesticides. Vous étiez dans le milieu agricole?
Absolument pas.
Non.
C'est juste que c'est dû à ce qu'on m'a donné à manger, mais après, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Mm-hmm. Dans les années 50, on a demandé aux agriculteurs de produire et de surproduire pour nourrir la France. Et donc, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, quoi.
Les pesticides, on en parle, mais on en parle, j'ai l'impression, pas suffisamment. Herveline, on laisse encore des agriculteurs utiliser ces produits qui sont, on le sait, dangereux, polluants, et on voit bien qu'ils ont des conséquences incroyables sur la santé.
Effectivement, en fait, on en parle beaucoup, moi, je trouve, sauf que...
Parle, oui, mais on les interdit pas.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, il y a plein d'histoires, il y a des histoires de lobby. C'est extrêmement difficile aussi d'engager une transition massive des agriculteurs, parce que finalement, les pesticides, le modèle sur lequel les agriculteurs travaillent, ils ont dû s'endetter pour acheter du matériel, pour être seuls sur des très, très grandes exploitations. Mmh. Et du coup, c'est tout un modèle économique qui serait à revoir, en fait. Donc moi je pense que c'est nécessaire. Maintenant après c'est vraiment une question très difficile.
Question politique.
Une question
carrément.
Politique. Oui.
La permaculture, expliquez-nous Vincent, c'est quoi exactement?
La permaculture c'est très simple. Je vous donne un exemple qui est très très simple, qu'ils utilisent en Bourgogne pour traiter les vignes. Arrivé à l'automne, ils prennent une corne de vache, ils enterrent de la bouse, ils mettent de la bouse de vache dans une corne, ils l'enterrent dans la terre, ils la déterrent au printemps au moment de traiter. Ils mélangent cette bouse de vache avec de l'eau, ils prennent une balayette et ils arrosent les vignes avec ça.
C'est-à-dire que tout
utilisé,
on se resserre de tout.
Ce qu'on a sous la main, quoi.
Moi, je voyais ça plutôt, les éléments se répondent, c'est-à-dire que c'est une façon peut-être d'imaginer la culture. Tiens, cette plante, elle va donner quelque chose à une autre juste à côté, ce qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de faire aussi, mais ça rejoint ce que dit Vincent, finalement, tout se répond, toute la nature se répond.
Oui, c'est ça. En fait, la permaculture, c'est un moyen de créer des systèmes et des écosystèmes résilients, c'est-à-dire qui effectivement surmontent les épreuves, etc., en ayant une complémentarité.
Merci beaucoup Vincent d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. On parlait de permaculture avec vous, on va parler de culture encore avec Nathalie qui nous appelle depuis la Bourgogne. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Alors tous les producteurs et les agriculteurs ne sont pas tous des pollueurs avec plein de pesticides, c'est peut-être ça qui vous a fait nous appeler parce que vous exploitez en biodynamie, vous êtes exploitante viticole.
Oui, tout à fait, en biodynamie, c'est-à-dire que je soigne mes vignes avec des plantes.
Waouh, avec les plantes.
En partie, oui. En fait, la biodynamie, déjà, on s'occupe beaucoup du système végétatif, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de notre plante, on va regarder comment elle évolue, et on s'occupe également beaucoup des phases lunaires, montantes, descendantes de la Lune. Donc ça, c'est à partir d'un calendrier biodynamique. Bon, je vous résume, hein, parce que sinon je vais passer...
Oui, on pourrait y passer carrément une heure, je suis d'accord avec vous, mais c'est intéressant.
Et donc, il y a deux matières qu'on ne peut pas séparer quand on travaille en viticulture au niveau des maladies, notamment du mildiou et de l'odium. Donc, on a le soufre et le cuivre. Hein. Ça, c'est deux matières dont on ne peut pas échapper. Alors, on va quand même mettre ces matières, du soufre et du cuivre, mais on va les réduire en mettant également des tisanes, donc de la prêle, de l'ortie, de l'osier, de la sauge, en fonction de ce qu'on va vouloir faire sur la vigne. Ça réduit les doses de soufre et de cuivre.
Alors forcément, la question que certainement tous les vignerons se posent, ça marche ? Il y a moins de maladies, il y a plus de maladies, il y a autant de maladies que sur la vigne, on va dire, en production plus classique ?
Non, pas plus, pas moins en fait, mais ça marche. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu une très très grosse pression et par rapport à nos tisanes, on a pu avoir une récolte. Et il y aura, je dirais presque, parfois, avec certains produits chimiques, on aura peut-être moins de bons résultats parce qu'on n'aura pas assez d'observations. Et du coup, en fait, moi, je travaillais en biodynamie et j'ai souhaité ne pas être labellisée.
Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de contraintes, justement ?
Non, justement, c'est parce que j'ai été extrêmement déçue de la labellisation. C'est-à-dire qu'avant de m'installer en exploitation...
Ah, vous avez votre radio d'allumée, Nathalie, on vous entend en double.
Ah, pardon.
C'est pour ça. Non, mais au début, on l'entendait pas, mais là, on l'entend bien.
D'accord. Mmh. Et en fait, j'ai été déçue en fait au niveau de la Qualité France par rapport à la certification bio, parce que en fait, j'ai pas eu d'analyse qui avait été faite sur le domaine à l'époque quand je travaillais là-bas, et je trouvais ça pas cohérent du tout, quoi. Mmh. On met 5 ans à mettre notre domaine en conversion bio, et durant ces 5 années, il n'y a aucune analyse de fait. Donc, j'ai trouvé pas ça sérieux. Après, il y a des gens qui travaillent très très bien, hein, souci de la vieille, c'est pas ce que je veux dire, tout le monde n'est pas comme ça. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne font pas les choses correctement.
Consommer mieux, consommer différemment, c'est faire attention de la provenance, effectivement, Herveline, des produits, et notamment dans l'agriculture, l'exploitation viticole, enfin c'est quelque chose d'hyper important. On le consomme et on le consomme directement et ça rentre dans notre corps directement quand même.
Oui, c'est vraiment des choses importantes à prendre en compte, je pense. Après, ce que disait Nathalie, effectivement, il faut pas oublier que comme toute chose en expansion, le bio peut être une source de business, etc. On peut aussi trouver des gens qui sont pas compétents dans le bio. Maintenant, après c'est une question de choix. C'est vrai que pour le consommateur, avoir un label quelque part, c'est quand même plus rassurant pour pouvoir faire des choix.
Et puis ce qui est bien avec le vin, c'est que c'est des bouteilles en verre. Ça se recycle.
Oui, effectivement, c'est vrai.
Buvons du vin.
Mais maintenant, il faudrait que ça se consigne surtout.
Oui, et ça, on peut le faire, Nathalie. Imaginons, on achète du vin chez vous, on vous ramène les bouteilles, on peut ramener les bouteilles ?
Oui, ça peut se faire. Après, c'est difficile à remettre du vin en bouteille dedans par nos propres moyens, parce qu'après, il faut que ce soit aseptisé quand même pour pas qu'il y ait de soucis. Donc, mais oui, après, moi, je recycle mes cartons. Je dis régulièrement à mes clients, si jamais vous avez des cartons vides, plutôt que de les jeter, ramenez-les-moi, je m'en servirai.
Bah oui.
Donc ça, c'est une chose déjà petite, soit-elle, hein, c'est certes, Mais et je voulais vous dire une chose aussi, en fait, c'est donc par rapport au label. Du coup, moi, j'ai créé ma marque et je fais du vin de Bourgogne bois logique. Donc voilà, j'ai déposé ma marque et buvons logique. Donc après, le terme bois logique, ça peut donner plein de choses. Hein. Boire logique, c'est aussi ne pas boire en surconsommation, hein, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on boit et boire peu aussi. Enfin, boire logique en buvant sainement. Enfin voilà.
C'est bien trouvé, bois derrière. Logique. C'est très bien vu, Nathalie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention sur France Bleu ce soir. Consommer différemment, c'est une chose. Produire différemment, c'est la base. La base, forcément, avant de consommer, on produit. Et on en parle ce soir avec vous, vous qui avez changé vos habitudes de consommation. Vous avez dit à un moment donné, j'arrête, on achète trop de choses, on a trop de choses à la maison, on est en surconsommation, on fait n'importe quoi, on va remettre les choses à plat. Est-ce que vous avez réussi à le faire en famille? Est-ce que c'est un projet, par exemple, à la naissance des enfants? On se dit, tiens, on va changer un petit peu tout ça, on va faire un peu plus attention, on va moins consommer, on va manger plus sainement aussi, on va produire nous-mêmes. 0810 055 056, on vous donne la parole comme chaque soir sur France Bleu. Jusqu'à 22h, on se dit tout.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Nous dépendons de la planète et la planète dépend de nous. C'est une phrase toute simple mais qui a toute son importance quand on y fait un minimum attention. Alors justement, quelles sont vos attentions à vous en tant que citoyen, éco-responsable, en tant que politique? Peut-être aussi, allons-y, ouvrons le débat. Si vous êtes maire d'une commune, peut-être que vous avez fait attention, mettre en place une cantine bio, mettre en place des composteurs aussi. Ce sont des petites choses mais ça fait beaucoup parfois quand on les met bout à bout. Racontez-nous comment vous vous battez au quotidien pour votre famille, pour votre commune, pour vivre mieux, pour une planète plus verte, on va le dire comme ça. On est encore un peu en campagne électorale, là, presque. 0810 055 056, on se dit tout avec Herveline Verbeken, qui est notre grand témoin, co-auteur du livre « J'arrête de surconsommer » aux éditions Erol. Et nous sommes avec Raphaël à Belfort. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
On a parlé à l'instant de biodynamie dans la vigne. On va parler maintenant d'agroécologie avec vous. C'est quoi l'agroécologie?
Alors, ça va être un peu plus poussé que le bio. On va dire qu'on travaille plus le sol. On va restituer la vie dans le sol, comme ça se fait dans une forêt.
Restituer la vie dans le sol. Mais vous faites comment pour restituer la vie dans le sol?
Eh ben, on laisse faire le sol, tout simplement. On arrête de le travailler, on arrête de le mettre à nu, où c'est qu'il va être érodé et que toutes les bactéries, les champignons qui vivent dans le sol vont mourir. Donc en fait, on travaille toujours sur le sol couvert, soit éventuellement pour les céréales, ça peut être de la culture avec de l'herbe en dessous et on sème directement dans l'herbe, ou alors du paillage, quoi, essentiellement du paillage en maraîchage. Et on va travailler aussi en symbiose entre les arbres, avec les arbres et les autres plantes. Par exemple, les arbres prennent le carbone de l'air, hein, le fameux CO2 qui nous empoisonne, et le restitue dans le sol. Et ça profite aussi aux plantes qu'on aura plantées en dessous. Et donc, c'est des principes de permaculture, d'agroforesterie. Et il y en a de plus en plus en France, ça se développe de plus en plus. C'est un peu plus poussé que le bio, parce que le bio, c'est bien, mais on continue à travailler le sol, on continue à avoir de l'érosion. Par exemple, quand on passe d'une forêt à un champ, on a souvent une marche, le champ est plus bas que la forêt. Et c'est simplement parce que dans le champ, il y a de l'érosion, et on n'a plus de restitution de sol. Tandis que dans la forêt, le sol il continue à se créer via l'humus et la décomposition des branches et des feuilles. Mmh. C'est pour ça qu'on retrouve les vestiges romains, par exemple, enterrés. Parce que tout simplement, le sol s'est créé sur les vestiges.
D'accord.
Ils habitaient en souterrain.
Et en termes de résultats, ça peut aller vite? On peut restituer un sol en combien de temps, combien d'années? Alors, Raphaël,
tout va dépendre
de son état.
Sol à la base, quoi. Tout dépend aussi de comment.
Mais pour trouver de la vie, par exemple, dans le sol, retrouver des petits vers, retrouver.
Ça peut aller très vite. Ça peut aller en quelques années. On a récupéré déjà, parce qu'avant, on avait énormément de vers de terre dans le sol. Et maintenant, il y en a très peu, notamment dans les champs qui sont blindés d'insecticides et tout ça. Et de l'agroécologie, de l'agroforesterie, on en a de plus en plus qui se développent sur toute la France. Et cette année, il va y avoir le premier tour de France des fermes en agroécologie, ça s'appelle le FAC, c'est organisé par Fermes d'Avenir. Et c'est un tour de France qui va démarrer le 15 juin et se finir le 15 septembre. Donc il y a 30 étapes de 3 jours, donc 4 à 10 jours de parcours. Ça démarre à Metz et ça finit à Tours, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va pouvoir visiter toutes les initiatives locales sur l'agroécologie, et sur tout ce qui va être initiative locale, même sur d'autres domaines. Pour ma part, j'organise une étape vers Belfort, à Daoudzouta, où c'est qu'on va aller visiter les fermes du secteur en agroécologie, où c'est qu'on va aussi présenter, donc là c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'écologie, mais c'est toujours alternatif, c'est la pédagogie alternative avec Montessori et tout ça, pour apprendre aux enfants autrement.
On fera une émission spéciale d'ailleurs sur les pédagogies alternatives, ce sera la semaine prochaine, je le dis au passage, ce sera vendredi prochain.
D'accord.
Voilà, on pourra en reparler.
Donc c'est un tour de France, pour les personnes intéressées, il y a un site internet, c'est fermedavenirtour.org, où c'est que il y a possibilité de s'inscrire à des formations de permaculture, il y aura des visionnages de films sur l'agroécologie, il y aura plein d'activités autour dans les différentes étapes.
C'est génial ça, Herveline, quand on entend Raphaël et on se dit qu'il y a plein de Raphaël en France, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt rassurant de se dire que voilà, enfin on prend soin de la terre.
Alors en fait c'est vraiment un mouvement qui est très 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 chouette. Là, le week-end dernier, avec Marie, on a été faire une conférence dans une association de permaculture qui s'appelle La Sève, qui est dans le 78, et vraiment c'est des lieux magiques quoi, c'est des lieux où il y a plein de bonnes ondes, enfin vraiment il y a quelque chose qui se passe dans ces lieux-là.
La vie reprend ses droits.
Ouais, c'est vraiment assez magique. Et c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment des choses qui peuvent se transposer à nos vies aussi, quoi, en fait. Les règles de l'agroécologie, de la permaculture, c'est vraiment des règles qui s'adaptent au système humain.
Alors on rappelle, hein, fermedavenirtour.org pour faire le tour de France de fermes en agroécologie. Merci beaucoup Raphaël d'être passé par France Bleu et bravo à vous et à tous ceux qui jouent le jeu, effectivement. On va partir maintenant à Étretat, c'est Noël qui est avec nous. Bonsoir Noël.
Bonsoir.
On va parler de recyclage avec vous. On ne jette plus aujourd'hui, on répare. Et vous avez créé une association qui répare les vélos.
Voilà, c'est ça. Donc je tenais à vous dire déjà pour commencer, c'est ma fille qui écoutait la radio en brossant les dents, qui a dit « Papa, il faut que t'appelles parce qu'il parle d'écologie ». Donc
bah ouais, super. Voilà,
on est en train de passer la main un peu aux enfants. Et c'est vrai que l'action est faite avant tout. Je dis qu'aujourd'hui, pour recycler, le recyclage, c'est avant tout une affaire d'enfants. Et c'est nous qui vont plus tard... amener ça aux parents. En fait, j'ai commencé en 2008, j'ai repris un hôtel, je me suis aperçu qu'à Étretat, on recyclait pas, donc je trouvais ça aberrant. En 2010, j'ai amené une charte environnementale au sein de l'hôtel. Au fur et à mesure, sachant que les politiques n'écoutaient pas, j'ai créé un personnage qui s'appelait...
Noël, vous bougez trop loin de votre base de téléphone, je sais pas, on vous capte de moins en moins bien.
Ah, je suis désolé. Et donc... au fur et à mesure, j'étais pas spécialement entendu, donc j'ai créé un collectif qui s'appelait Tricot, T-R-I-C-A-I, les gens peuvent aller voir sur notre page Facebook. Et donc, on commence à être un peu entendu, mais il faut savoir qu'en 2017, nous sommes en 2017, et il n'y a toujours pas de crise sélective en porte-à-porte à Étretat, chose pour moi qui est vraiment dramatique, parce qu'on a des politiques qui ne veulent pas entendre ça. Je prends pour exemple le maire de Tricot-Lesneval, qui de toute façon, on dit l'écologie, elle n'est pas très concernée, je trouve ça assez dramatique.
Ça concerne tout le monde, l'écologie.
Mais oui, exactement. Donc voilà, donc, monsieur Fleury, si vous m'écoutez, l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde, de vos enfants et de vos petits-enfants. Et donc, ce qui serait intéressant aujourd'hui, comme cela existe à Saint-Eustache-la-Forêt, c'est une ressource sur l'eau. Et donc, je suis allé dans la déchetterie il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un foutoir pas possible, la Tricot-Lesneval, et j'ai vu des vélos comme ça, qui étaient encore en bon état dans une déchetterie. Donc j'ai décidé de les récupérer. On a monté une association, on est 4-5 bénévoles pour l'instant, mais il y a des mamans et des papas qui accompagnent aussi maintenant les enfants. Et on répare les vélos et on les donne aux enfants, mais pas seulement, on les donne aussi aux parents pour que, par exemple, le matin, ils puissent accompagner leurs enfants à l'école plutôt que de prendre leur diesel. Quoi.
Il y a deux trucs super, c'est-à-dire qu'on arrête de jeter, on répare, on donne et on arrête de consommer de l'essence ou du gasoil en plus. Évidemment, consommer différemment, c'est arrêter de jeter. Herveline, ça en fait partie?
Oui. Oui, effectivement. Alors, c'est vraiment des nouveaux modèles économiques. C'est l'économie, voilà, l'économie circulaire, etc. Où vraiment, on privilégie la réparation, la remise en état de l'objet. Et ça crée des emplois. Hein. Ça crée des emplois parce qu'il faut plus de compétences humaines. On ne peut pas automatiser de la réparation, en fait. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est un secteur qui, potentiellement, pourrait créer beaucoup d'emplois. Et des emplois
recycleries. Les recycleries, ça
oui.
s'appelle comme ça.
Il y a pas mal de recycleries qui se développent. Et en plus, c'est de l'emploi en général, c'est de la réinsertion, donc c'est vraiment très très intéressant.
Sans aller jusque-là, des sites de commerce comme Le Bon Coin, c'est aussi une autre façon, c'est-à-dire on ne jette pas, on va faire profiter quelqu'un d'autre d'un objet dont on ne se sert plus.
Oui, il y a plein de circuits parallèles, le Bon Coin, les foires à tout, mais il y a aussi les boîtes à données qui se démocratisent pas mal et qui c'est vraiment un chouette système également.
Merci Noël d'être venue ce soir sur France Bleu. Vous ferez un gros bisou à votre fille dans la salle de bain, parce que c'est grâce à elle que vous êtes venue nous parler donc de cette association Les Rayons Verts donc à Étretat. Et nous, on parle d'écologie, de façon de consommer différente avec vous au 0810 055 056. On est ensemble comme tous les soirs jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Quels sont les gestes écolos que vous avez mis en place dans votre quotidien, votre maison, votre façon de vous alimenter, de consommer, de travailler? On se dit tout sur ces petits gestes qui peuvent faire beaucoup, sur votre conscience écologique aussi. Au 0810 055 056, venez nous raconter comment vous avez mis un peu de vert dans votre quotidien, comment vous avez réduit vos emballages, vos déchets, comment vous avez réorganisé votre façon d'acheter, de cuisiner. C'est la blogueuse Herveline Verbeken qui est avec nous ce soir, co-auteur de J'arrête de surconsommer aux éditions Erol. Et nous sommes maintenant avec Marie à Rouen. Bonsoir Marie.
Bonsoir Anissa.
Bienvenue sur France Bleu Marie, vous faites partie d'une association Zéro Déchet à Rouen.
Voilà, il existe une association Zéro Déchet à Rouen qui a été créée l'année dernière en juillet. Et nous sommes un groupe local de Zéro Ouest France. Et nous organisons des ateliers pour faire apprendre aux gens à faire leurs produits cosmétiques. Mmh. Il y a aussi comment faire un lombricomposteur pour se composter en appartement. Il y a une promotion de l'achat en vrac, de l'achat aux producteurs locaux grâce à une carte qui va être mise en place et où tout le monde pourra contribuer. Donc nous avons un blog, Zéro Déchet Rouen, sur WordPress, et un Facebook. D'ailleurs, c'est par ce Facebook que je suis arrivée dans cette association.
D'accord. Alors comment on fait pour vraiment réussir à faire zéro déchet, Marie? Est-ce que ça veut dire que déjà on achète différemment, on n'achète pas dans les mêmes endroits, on n'achète pas la même chose, voilà, on achète moins?
Voilà, donc le but, c'est de commencer à essayer d'acheter en vrac, en emmenant ses contenants. Hein. Sur Rouen, il y a pas mal de commerçants qui acceptent les sacs tissus, les bocaux en verre. Et ça permet de ne pas perdre, puisque après, en achetant en vrac, on va cuisiner chez soi. Et ça évite d'acheter des produits tout faits qu'on va peut-être pas forcément manger.
Mmh. Acheter en vrac, c'est une vraie bonne solution, Herveline.
C'est une vraie, vraie bonne solution. Mais alors par contre, c'est vrai que moi je suis de Rouen aussi, donc effectivement je confirme que à Rouen vraiment c'est vraiment chouette. La Biocoop, moi où je vais, a plus de 300 références de vrac. C'est vraiment énorme. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas encore tout à fait démocratisé en France, et donc souvent les gens ils disent non, moi je peux pas faire zéro déchet parce que j'ai pas de magasin vrac. Et moi je dis,
Il n'y a pas
que l'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation dans le zéro déchet, et il y a énormément de choses à faire si on n'a pas de magasin en vrac.
Et puis moi, je sais que j'avais vu un reportage il n'y a pas très très longtemps d'une famille qui était vraiment partie sur zéro déchet. Par exemple, aller chez le crémier, donner son pain en verre, le crémier mettait dedans. Chez le boucher, les tranches de jambon, on les mettait pas dans du papier puis dans un sac, mais directement dans une boîte en verre. Enfin voilà, c'est des gestes finalement. Si on est plusieurs à le faire, peut-être que le boucher, le crémier, le charcutier, ils vont peut-être prendre en compte aussi tout ça.
Le geste simple, c'est de refuser le papier autour de la baguette de pain. En fait.
Oui.
Alors ça. Ça surprend toujours les boulangers quand ils n'ont pas l'habitude. Mais en réalité, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ce bout de papier.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien parce que le boulanger le prend avec ses doigts. Et nous, de toute façon, après, on le prend avec nos doigts. Donc de toute façon...
Et Marie, est-ce que vous avez fait de vraies économies? Est-ce que vous avez remarqué que depuis que vous faites attention à vos déchets, vous faites aussi des économies?
Oui. En achetant... je fais mes confitures parce que je vais au marché, par exemple, acheter des fruits qui normalement sont bons limite à jeter. Donc on gagne des prix, un kilo de banane, je sais pas moi, à 3 euros, pour les confitures, vous le négociez à 50 centimes.
Ah oui, c'est pas mal.
Voire même une fois, je suis repartie avec 15 kilos de brugnons qui allaient partir à la poubelle parce que le week-end arrivait et que donc il fallait s'en débarrasser. Mmh. Donc franchement, on peut faire des économies parce qu'on va cuisiner nous-mêmes. Donc, et puis on évite tout le suremballage. Donc s'il n'y a pas de suremballage, forcément, on achète aussi, on fait marcher l'économie locale. Donc tout le monde s'y retrouve, je pense, dans le vrac.
Et les cosmétiques, vous nous avez dit que dans votre association, on apprend à faire soi-même ses cosmétiques. Qu'est-ce que vous avez appris à faire, vous, Marie ?
Alors, donc, les cosmétiques, je fais donc maintenant mon déodorant.
Ouais.
Et bêtement de l'huile de coco avec du bicarbonate alimentaire, un peu de maïzena et des huiles essentielles. D'ailleurs, à ce propos, l'association Zéro Déchet sera ce week-end à Graines de Jardin, puisque c'est le thème des senteurs. Et donc, il y aura des ateliers gratuits animés
pour apprendre
par,
à faire
Zéro Déchet.
D'accord.
Et un stand, voilà, donc vous pouvez passer nous voir, c'est inscription gratuite.
C'est bien ça.
De jardin.
Ouais.
Et avec du marc de café, tout le monde, si les gens prennent du café, le marc de café mélangé avec de l'huile de coco, ça fait un gommage, mais je n'y croyais pas avant de l'avoir testé. Quoi.
Mmh.
Et ça laisse la peau douce, c'est vraiment, c'est que du bonheur et... le fait de, avec cette association, moi je faisais un petit peu, mais je me sentais vraiment très seule. Et depuis que je suis dans l'assaut, eh ben je m'aperçois que on est tous en ce moment à faire un petit peu au quotidien. Et si tout le monde faisait un petit peu, eh ben justement ça essaimerait. Et je pense qu'on prend conscience actuellement. Moi, comme disait Hermine, au niveau des commerçants, le boulanger, tout ça, ils sont interloqués, mais ils l'acceptent. Donc je pense qu'on est de plus en plus à le faire.
C'est sur la bonne voie, on peut le dire comme ça. Les cosmétiques, un petit mot quand même, parce que vous y êtes assez sensible, oui. Herveline aussi. Ça, c'est un super geste de consommation différent de faire soi-même ses cosmétiques. Il n'y a plus ouais. d'emballage, il n'y a pas de trucs bizarres dedans, on sait ce qu'on y met.
Ouais. Ouais, parce que les cosmétiques, c'est vraiment un nid à choses, enfin, à ingrédients pas très très clean et potentiellement dangereux. Et c'est vrai que, alors, moi, je suis sur le versant slow cosmétique, hein, c'est-à-dire le moins d'ingrédients possible. Je pense que je fais la même recette de déo que Marie. Et voilà, c'est vraiment le moins d'ingrédients possible. Par exemple, se démaquiller à l'huile d'olive, il n'y a pas besoin de recette, il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin d'avoir accès à sa bouteille d'huile d'olive. C'est tout
bête. Et ça marche.
Et ça marche, oui, ça marche très très bien. Donc il y a plein de choses comme ça, remplacer le gel douche par du savon de Marseille, se laver les cheveux par exemple. Moi, je me lave les cheveux avec de la farine de pois chiche.
Ah, j'avais entendu parler là. Farine de pois chiche.
Farine de pois chiche, ouais.
Pas mal.
Ouais. En fait, c'est tout bête, c'est de la farine de pois chiche et de l'eau. En fait, le pois chiche contient de la saponine.
Et ah oui, c'est ce qu'on retrouve dans.
Voilà,
ah,
oui. On le retrouve dans le savon. Donc.
Ouais.
Et du coup, voilà, ça fait un shampoing naturel en fait.
Tout naturellement. Mmh. Bah oui. Marie, merci beaucoup et bravo à tous les bénévoles de l'association Zéro Déchet à Rouen, mais il y en a partout en France et c'est ça qui est assez génial. À bientôt Marie, on vous
merci
embrasse.
Au revoir.
Si vous triez, si vous recyclez, si vous compostez, si vous faites vous aussi des choses vous-même, vous êtes dit non, moi j'achète plus ça, je peux le faire naturellement à la maison, ça coûte 5 fois moins cher. Si vous avez fait des économies aussi en consommant différemment, eh bien c'est le moment de nous rejoindre au 0810 055 056. Et puis les élus peuvent également intervenir ce soir. Est-ce que dans votre commune on fait attention à tout ça? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour la cantine scolaire par exemple? Hop, on fait participer les producteurs locaux, on passe en bio. C'est des petites choses mais c'est très important. On va parler aussi de composteurs, on peut parler des poulaillers. Vraiment voilà, la politique et l'écologie, c'est intéressant d'en parler. Alors politique au quotidien, c'est plus vraiment de la politique, c'est du bon sens. Venez nous rejoindre, ça nous ferait bien plaisir d'en parler avec vous aussi jusqu'à 22h. 0810 055 056, on vous attend sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Human, qui était le titre du film de Yann Arthus Bertrand, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bah, on parle un peu de tout ça aussi ce soir, de l'humain, de l'écologie, de la façon de consommer différemment, avec vos témoignages jusqu'à 22h au 0810 055 056. Et Olivia nous a rejoint depuis la Loire-Atlantique. Bonsoir Olivia.
Bonsoir.
Vous connaissez bien Herveline Verbeken?
Oui, via son groupe Facebook Gestion budgétaire et entraide des minimalistes, en fait, qu'elle a créé avec Marie Lefebvre.
Oui.
Donc, c'est un groupe que j'ai accédé il y a 14 ans, en fait, et j'ai changé totalement ma façon de consommer. J'étais quelqu'un qui surconsommait énormément. Hein, pour dire, j'ai dépensé 500 euros lors des soldes. Hein. C'est pour vous dire, pour acheter des choses que je n'utilisais pas forcément. Et désormais, ben, je ne fais même plus les soldes, je n'en vois même plus l'intérêt. Grâce à ce groupe, j'ai découvert que ma commune permettait d'avoir des composteurs, par exemple, pour 12 euros. Je dépends de la commune de Châteaubriant, donc c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir accéder à des composteurs dans ma commune, pas cher, et de pouvoir en fait recycler mes déchets. Et puis petit à petit, j'ai des poules. et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai fait tout un acheminement de vie en 14 mois. Donc voilà, quoi.
Wow, le changement de vie en 14 mois, c'est impressionnant, Olivia. Mais qu'est-ce qui vous a amené sur le groupe Facebook au départ ?
Pour le côté gestion, en fait, vraiment pour le côté budgétaire. Comme je disais, j'étais dépensière et désormais, en fait, je m'aperçois, enfin maintenant, je peux vivre avec 1000 euros par mois, en fait, avec 3 enfants, très bien, alors qu'avant, je dépensais peut-être 2000 à 2500 euros par mois dans le quotidien. Mais avec ce groupe, je me suis aperçue que tout était du superflu. On n'avait pas besoin de dépenser au quotidien, de commander sur Internet tous les jours et tout ça. Et j'ai radicalement changé ma façon de consommer. J'achète local, j'achète bio, en vrac. Et c'est vraiment, ça fait toute la différence. Donc à la base, c'était vraiment pour le côté budgétaire.
Herveline, présidente. Non mais c'est fou, il faut que tout le monde connaisse. Ça vous fait plaisir, j'imagine, quand on entend Olivia qui, en 14 mois, est passée du côté un peu compulsif, acheteuse compulsive, à quelqu'un qui, maintenant, aujourd'hui, fait hyper attention, vit bien, heureuse, épanouie.
Alors, en fait, c'est vraiment un groupe qui est absolument génial parce que c'est un groupe dont les personnes sont remplies de gratitude, vraiment, et n'hésitent pas à l'exprimer. Effectivement, on a énormément de témoignages comme ça et on est toujours très surprise avec Marie parce que nous, on a mis 6 ans, 10 ans à changer et les gens, ils font ça en quelques mois. Et en fait, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que les gens ne se frustrent pas, ils se privent pas, ils trouvent en fait que la liberté et le bonheur est ailleurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est pas du tout un chemin austère, en fait.
Je vais vous faire encore plaisir parce qu'après Olivia, en Loire-Atlantique, c'est Amélie qui est en Bretagne, qui est avec nous. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Vous aussi, vous faites partie du groupe qu'on appelle aussi le groupe Les Licornes. C'est plus facile
que
gestion budgétaire, entraide et minimalisme, c'est un petit peu long.
Oui, c'est ça. Ça fait depuis 6 mois, en fait, que j'en fais partie.
Et là, ça a été quoi, vous, le déclic ? Comment vous êtes retrouvée ?
En fait, ça a été le zéro déchet au début. Donc, j'étais inscrite sur un autre site zéro déchet. Et puis, un jour, quelqu'un a parlé de ce site et je m'y suis mise. Et en fait, j'ai complètement accroché. J'ai passé des heures à lire, à tester des choses. C'était très, très passionnant. En plus, c'est vraiment de l'entraide, de la bienveillance. Il n'y a aucune critique. Tout le monde se... Et donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai un produit ménager qui se terminait, par exemple, hop, tiens, plus de produit à vaisselle, hop, je teste une recette. Et puis ça me plaît, je continue, je la note. Et puis ça me plaît pas, j'en teste une autre.
Alors c'est quoi le produit vaisselle qui marche bien à faire soi-même à la maison, Amélie ?
Alors je vais regarder la recette parce que là en ce moment j'utilise que du savon de Marseille.
Ah bah ouais, mais c'est le meilleur produit du monde, ça, le savon de Marseille.
Le savon en bloc. Et un tawashi, donc une éponge faite en vieille chaussette ou enfin. Une fois dépareillé, soit abîmé ou autre. Et puis, ça mousse super bien et c'est l'idéal pour faire la vaisselle.
Souvent, les solutions les plus simples sont les meilleures.
Savon de Marseille, on peut faire sa lessive aussi avec.
Oui, tout à fait. La lessive, c'est ultra simple à faire avec du savon de Marseille. Du savon de Marseille, des cristaux de soude, enfin, du... Voilà. Et puis,
et
de l'eau. Ouais.
Et ça roule. Et est-ce que, comme Olivia tout à l'heure, ça a changé... Je ne vais pas dire votre vie, parce que bon, ça ne fait pas non plus si longtemps que ça, mais est-ce que déjà vous vous sentez mieux, Amélie ?
Ah, je me sens super bien. Et en fait, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment changé ma vie, parce qu'en fait, moi, quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond. Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'acheter des gâteaux emballés pour mes enfants, j'ai commencé à faire tous les goûters, les desserts maison. J'achetais déjà pas mal en bio, parce que j'étais déjà très branchée bio. Oui, j'ai commencé à acheter en vrac le plus possible, à faire tout maison, et puis surtout acheter de saison, essayer de trouver des petits producteurs. Je me suis inscrite dans une AMAP à côté de chez moi, et puis j'ai acheté une machine à coudre d'occasion, j'ai commencé à faire pas mal de petites choses en récup, j'ai créé un blog parce que j'adore partager en fait les choses vers lesquelles je vais, donc j'ai créé un blog.
Qui s'appelle comment, Amélie ?
Qui s'appelle Terre Agir.
Terre Agir.
Voilà, terre-agir.
D'accord.
Terre comme la terre et puis agir comme l'action agir.
Mais je vous sens que là, vous êtes partie, Amélie. Je ne sais même pas où on va vous arrêter.
Ah, mais je pense que je suis passionnée, je suis à fond.
Ouais. Et quitte même à changer de direction à un moment donné ?
Voilà, c'est ça. Donc là, en ce moment, je suis salariée dans une grande entreprise. Et je veux vraiment faire mon métier, de partager avec les gens. Donc je suis en train de réfléchir pour pourquoi pas me mettre auto-entrepreneuse, me faire embaucher par une communauté de communes, une mairie, et puis essayer de sensibiliser les enfants dans les par rapport aux TAPS dans les écoles, les femmes enceintes dans les cabinets de sages-femmes. Et bientôt, je vais faire un atelier dans une médiathèque près de chez moi, bénévolement, où je vais, je sais pas encore quoi faire, ça va dépendre. Là, ils ont mon blog entre les mains, ils vont regarder un petit peu ce que je fais. Et puis là, ils vont me dire, bah tiens, ce serait bien de faire un atelier, soit, je sais pas, moi, faire des colliers avec avec du papier, des perles en papier, ou des fleurs avec des feuilles de thé séchées. Enfin, il y a pas mal de petites choses que j'ai testées.
J'arrête de surconsommer, c'est un métier d'avenir, Herveline.
J'espère.
En tout cas,
il faut tellement de personnes, mais oui, tout à fait. En fait, le but, un des buts du livre d'ailleurs, c'est de donner envie aux personnes de transmettre un petit peu ça. Parce que je pense que c'est vrai que c'est effectivement un très grand défi d'avenir.
Merci Amélie, merci Olivia, deux Facebookeuses assidues donc d'Herveline et Marie. Et pour encore quelques minutes, on parle de consommation différente. Si vous aussi vous avez arrêté de surconsommer, si vous avez changé vos habitudes, venez nous en parler sur France Bleu au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Qu'est-ce que ça fait du bien de vous écouter ce soir. On se sent mieux, un peu plus léger si on consomme différemment, si on arrête de surconsommer surtout. Et on continue de vous écouter avec Jean-Marc qui est avec nous depuis la Bourgogne. Bonsoir Jean-Marc.
Bonjour. Bonsoir Vanessa.
On parlait tout à l'heure, tiens, des boulangers, c'est rigolo. Peut-être que c'est aussi pour ça que vous avez eu envie de nous appeler. On se disait, il faut que les boulangers arrêtent de nous mettre du papier autour de la baguette.
Ah, ça c'est dur.
C'est vrai, c'est dur.
Oui, c'est pas nous. C'est qui on va dire. Parce que moi, je vois, j'ai un magasin et je fais des tournées. Donc, en tournée, il n'y a pas de papier.
Oui.
Et par contre, au magasin, quand on met pas le papier, les gens, ils attendent avant de prendre la baguette.
Ah, c'est dingue. Ils sont habitués. Ils sont un peu, ils sont habitués à ça. Ça sert à quoi le papier autour de la baguette, Jean-Marc?
Bah, pour moi, rien.
Alors, peut-être qu'il faut communiquer là-dessus, dire ici, on met pas de papier autour de la baguette, on fait attention, on est écolo. Non, il n'y a pas de ça aussi. Peut-être qu'ils seraient un peu plus sensibles à ça si vous laissiez un petit message.
Peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que moi, quand je suis au magasin, des fois, j'oublie de mettre le papier et je vois, tant que j'ai pas mis le papier.
Ils repartent pas sans le baguette et papier. Et alors, vous n'aimez pas jeter, Jean-Marc, et je trouve ça plutôt bien aussi. Vous faites attention?
Oui, on va dire que, disons que moi, tout ce qui reste de viennoiserie, nous, on fait des lots.
Genre le lendemain matin, sont moins chers.
On est au prix coûtant, on est.
C'est quoi le prix coûtant pour nous donner une idée?
On récupère notre matière première. Ouais.
Alors genre le pain au chocolat est à combien le lundi et à combien le mardi?
Nous c'est même pas comme ça, c'est toute la viennoiserie. Donc on va dire qu'on va faire un sac avec 5 viennoiseries.
Oui.
Et on met les 5 pour 1,80€, on est.
Ah ouais, c'est génial ça. Il suffit de le tremper dans le chocolat ou dans le lait et c'est parfait. Hein.
Ou passer au micro-ondes.
Ou passer au micro-ondes, mais oui, oui, oui. Mais c'est là où, en fait, ça fait du bien aussi que ça vienne de la base, Herveline. Que les boulangers eux-mêmes se disent, si vous voulez des pains au chocolat, des croissants, des viennoiseries qui sont un peu moins fraîches, c'est possible et c'est moins cher.
Ouais. Ça, c'est vraiment génial que ce soit pas toujours aux consommateurs de nous demander. C'est vrai que c'est aussi agréable quand les commerçants prennent la main là-dessus et mettent leurs petits mots. Il y en a qui font ça dans les boulangeries. Je connais des boulangeries où ils proposent des sacs en tissu ou des choses comme ça pour essayer de donner l'habitude à leurs consommateurs. Ouais.
Et qu'est-ce que vous faites des pâtisseries aussi, Jean-Marc? Parce que là, c'est un peu plus délicat. Il y a de la crème, il y a des œufs, il y a des fruits.
Ah, les pâtisseries, c'est mon copain. Il s'appelle Cochon.
Ah, c'est vrai? Vous donnez au cochon?
Oui.
Vous avez un cochon ou vous donnez à un autre copain cochon?
Non, j'ai un cochon chez un de mes clients cultivateurs, et puis, parce qu'un cochon ne s'élève pas tout seul.
Oui. Donc, non, mais vous pourriez avoir un cochon. Oui, en même temps, quand on est boulanger, on a déjà pas mal de boulot. Hein. Oui.
Non, mais on va dire qu'un cochon, en réalité, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Donc, oui. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Donc, ouais. Alors, du coup, c'est chez un de mes collègues cultivateurs, et puis j'y amène les restes. Et puis, c'est le cochon qui mange.
Mais comment, il doit être trop bon, le cochon, après?
Eh ben, puis moi je mange le cochon à la fin de l'année.
Cochon éclair au chocolat, cochon. Non, mais c'est. Ça vous fait pas mal au cœur parfois de jeter, Jean-Marc?
Bah, disons qu'on n'a pas le choix parce que bon, on a des hauts, on a des bas. Ces temps-ci, bon, on vend beaucoup parce qu'il fait chaud. Demain, s'il pleut, on va vendre moins.
Oui. Mais oui, on peut jamais savoir à l'avance. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions à un moment donné, Herveline, sur qu'est-ce que deviennent les invendus dans les magasins, les supermarchés, après les marchés aussi. Enfin, il y a un vrai business parallèle à imaginer.
Il y a déjà un petit peu une forme de business parallèle. C'est vrai que quand on va sur les fins de marché, en général, les produits sont bradés, tout simplement. Dans les supermarchés, donc c'est la fin, normalement, les supermarchés n'ont plus le droit d'asperger d'eau de Javel,
heureusement,
les denrées consommables. Bon, voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis assez contre, alors pas pour les petits commerçants, mais pour les supermarchés qui profitent du fait que les produits soient gâtés ou presque périmés, des produits qu'ils auraient normalement jetés, de les profiter pour les revendre. Je trouve que c'est assez fort de la part des supermarchés, pas fort dans le bon sens. Voilà. Après, les petits commerçants, c'est différent, mais moi, je me méfie assez des supermarchés qui font encore de l'argent sur des... Voilà.
Donner, c'est possible ?
Mais pourquoi pas ? De toute façon, avant, ils les jetaient.
Bah oui, donc oui, pas le problème. Jean-Marc, merci beaucoup et bravo hein, de ne pas jeter, de faire les choses autrement, de consommer différemment et d'arrêter de surconsommer. C'est une façon effectivement d'y contribuer. Merci Jean-Marc, on vous embrasse très fort. Et bonne petite nuit, non ? Vous couchez à quelle heure là ?
Ah non, là je suis dans le pas.
Ah, vous avez commencé à bosser là ?
Vers minuit.
En fait, vous avez commencé à travailler ?
J'allais faire une sieste entre minuit et deux.
Ah oui, bah voilà, une sieste entre minuit et deux. D'habitude, on a une sieste entre midi et deux, mais là, bah oui, c'est ça aussi le métier en décalé, le métier de boulanger. À bientôt, Jean-Marc, et à très vite sur France Bleu. Au revoir. France Bleu, France Bleu. Et on se dit tout, c'est fini pour ce soir. Merci pour vos nombreux messages, vos nombreux témoignages et merci surtout à notre grand témoin, Herveline Verbeken. Ça fait du bien d'entendre tous ces gens qui consomment différemment.
C'est toujours très, 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 très chouette. Je trouve vraiment ça donne de l'espoir et puis ça donne aussi ça nous donne envie d'aller encore plus loin nous.
Et ça marche bien avec Marie ? Le duo Marie Lefèvre, Herveline Verbeken.
Le duo Marie Herveline est détonnant.
Le duo des licornes. On vous retrouve donc avec ce livre J'arrête de surconsommer aux éditions Erol. 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque. Et puis on vous retrouve également sur Facebook.
Oui, gestion budgétaire, entraide et minimalisme.
N'ayez pas peur du titre, c'est vachement intéressant à l'intérieur.
Oui, tout à fait. On ne savait pas que ça cartonnerait, donc on n'avait pas soigné le titre.
Merci beaucoup Herveline, bonne fin de soirée.
Merci à vous aussi.
On se dit tout, c'est fini pour ce soir, mais rassurez-vous, on revient demain à partir de 20h. Si vous avez raté le début de l'émission, si vous dites « Oh, c'est trop dommage, c'était vachement bien », rassurez-vous, vous pouvez réécouter l'émission en podcast, direction notre site francebleu.fr, comme toujours.